Alors, vous savez qu'on avait fait des commandes de livres. Je vous rappelle à ceux qui ont commandé des livres de John sur le tour de la réforme. C'est la Genève de Calvin. Vous vous souvenez? Donc, il y a encore 4 livres qui sont là à payer. Donc, c'est 25 francs pour ceux qui ont fait la commande. Et c'est une remise parce que c'est 30 si vous faites le tour. Donc, et là, l'évangile.net, on a amené plusieurs exemplaires pour ceux qui n'auraient pas. C'est essentiel parce que, en fait, vous allez encore avoir une dizaine de rencontres sur le sujet. Et donc, l'objectif, je vous le rappelle, c'est qu'on a lancé cette série, La Grande Histoire, pour que, d'une part, ça vous donne une ossature, vous, en tant que croyant, vous ayez une idée du fil rouge, du fil conducteur que nous trouvons dans toute la Bible sur le plan de rédemption de Dieu. C'est fondamental, vraiment. Il y a énormément de livres aujourd'hui. Quand vous regardez la structure du livre, à un moment donné, ils vont vous parler création, chute, rédemption, consommation. Vous aurez ces 4 points régulièrement dans beaucoup de livres. Et donc, du coup, on vous forme au travers de cette série, mais surtout vous forme à répondre aux questions qui sont dans ce livret, on reprend exactement la même structure, et donc l'idée c'est que vous puissiez, vous, ne plus avoir peur en fait, pour pouvoir le partager avec vos amis qui voudraient découvrir Jésus ou découvrir la Bible, et c'est le but. C'est pas de les convaincre, mais c'est de leur présenter ce que la Bible dit, et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Nous on est là pour juste les aider à qu'ils comprennent bien le message de la Bible. D'accord? Et donc, on a, la dernière fois, je vais prendre ma télécommande, et c'est moi qui pilote maintenant. Voilà. Donc, il y a 12 rencontres, on en est à la troisième, donc vous voyez, il en reste 10. Et la dernière fois, je n'avais pas terminé. Alors, c'était la session 0, hein, la Bible est-elle fiable? La session 1 sur la création, et l'objectif c'était de découvrir l'intention de Dieu dans la création. Un petit résumé, à chaque fois c'est comme ça, et donc je vais vous le lire ici. Dieu a créé un monde parfait et harmonieux dans lequel l'homme était libre de lui faire confiance en obéissant à la seule limite qui lui était imposée, celle de ne pas manger du fruit qui permettait d'accéder à la connaissance du bien et du mal. Je n'ai pas l'écran de rappel si jamais. Et donc, on avait regardé cette première session, et après on a fait la deuxième session, la dernière fois, et donc c'était sur l'indépendance, ou l'autonomie, le choix de l'homme à devenir autonome, et là le but c'est de découvrir l'origine de la souffrance dans le monde. Un petit résumé de notre dernière rencontre, l'homme a choisi d'être autonome, les conséquences sont nombreuses, la relation à Dieu est rompue et l'harmonie des relations humaines est brisée. L'homme connaît la peur, la honte et la violence, il tente de cacher par lui-même sa nudité que Dieu couvre avec la peau d'un animal. Et on avait arrêté en cours en fait, parce qu'on n'avait pas terminé cette session, et donc je me propose de terminer la session numéro 2, et ensuite on enchaîne avec la session numéro 3, il y a moins de questions sur la session numéro 3, mais il y a quand même pas mal de textes. Donc on va écouter maintenant Genèse chapitre 4, c'est sur Caïn et Abel, vous allez l'entendre, mais vous allez aussi pouvoir suivre ici avec les paroles, c'est les 8 premiers versets de Genèse chapitre 4.
Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit
« J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. »
Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi
de dominer sur lui.
Cependant, Caïn dit à son frère Abel :
Allons dans les champs.
Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua.
Voilà la fin de la lecture de la portion qu'on dit là. Je suis désolé, j'ai pas mis la bonne version. C'était la version Colombe affichée et la seconde 21 qui était lue. Donc ça, c'est mea culpa. Hein. Vous me pardonnez? Ok, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors, dans le manuel, si vous prenez le manuel, on est à la session numéro 2. Et vous voyez qu'il y a une session qui saute, donc enfin une session, on saute la page. Donc on est à la page, je suis à la page 14, et donc le texte est à la page 15, et les questions sont derrière à la page 16, d'accord? Et la première question que tout le monde se pose, mais qui est assez évidente en fait, pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? Quel est le motif principal? Là, quand on lit cette histoire, quel est le motif?
Jalousie.
Jalousie. On dirait que vous connaissez. Vous savez que quand j'étais enfant, j'avais un frère qui a 14 mois de plus que moi. Et donc, on est assez proches. Et quand je lis Caïn et Abel, je me retrouve. Et je me souviens très bien d'une situation parce que on se crêpait le chignon, on va dire, quand on était petit. Puis plus on a grandi, vers la fin de l'adolescence, là, ça devenait sérieux, les bagarres. Je me souviens avoir explosé des vitres, des portes. On disait à nos parents qu'il y avait eu un courant d'air. Mais non, c'était bien nous. Et je me souviens une fois, tellement de colère, que j'ai chopé un couteau de cuisine gros comme ça. Et j'ai couru après mon frère. Il a eu de la chance. Ce jour-là, il a pu s'enfermer dans la chambre. Mais je pense que si j'avais pu le choper, il serait mort aujourd'hui. C'est un sentiment très fort qu'on peut ressentir, qui peut nous pousser vraiment à faire des bêtises. Est-ce que je suis le seul ici? Peut-être que vous n'avez pas pris de couteau de cuisine, mais peut-être que dans votre tête, vous savez ce que dit Jésus par rapport à la colère? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur la colère? Si tu es en colère contre ton frère, tu es déjà meurtrier. Ah! Ça se passe là, en fait. Ou là. Hein, un peu la même chose. Le cœur, les pensées, l'intelligence, c'est ces termes qu'on trouve dans les Écritures, c'est ce qui va piloter notre volonté. Eh bien, on passe pas toujours à l'acte, mais honnêtement, dans nos têtes, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et là, on a exactement cette situation. On a les deux frères qui sont là. Il y en a un qui va faire une offrande et l'autre va regarder, va faire lui aussi une offrande. Et puis, il y en a un qui va avoir un peu chou blanc avec Dieu. Lui, il est refusé, si vous regardez bien le texte, personnellement, et aussi son offrande. Et là, on se dit, ah tiens, c'est pas seulement l'offrande. Pourquoi il a refusé Caïn et son offrande? Vous voyez? C'est les deux, il a repoussé les deux. Et pareil, pour Abel, il a accepté les deux. Il a accepté Abel et son offrande. C'est bien séparé. Qu'est-ce que vous diriez ici? Pourquoi il l'a fait? Alors, j'ai dit la colère, mais il y a un autre indice dans le texte. Qu'est-ce qu'il doit faire Caïn? Lui dit, si tu fais pas ça, il y a quelqu'un qui est à la porte. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dominer sur le péché. Et donc, il y a eu la colère, donc on va dire que ça c'est une émotion qu'on ressent, hein, on ressent une injustice. Pourquoi lui, il a été agréé et pas moi? Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Ok, qu'est-ce que tu fais de ton émotion? Et c'est ça le plus important, en fait. Comment il a fait? Il a laissé l'émotion l'embarquer. Et là, il est passé à l'acte. Et qu'est-ce que disait juste Dieu avant? Le péché est tapis à ta porte. C'est-à-dire qu'il est là et il va essayer de te dominer, mais toi, domine sur lui. Donc tu as une capacité. Tu n'es pas un animal. Parce qu'un animal va réagir avec ses instincts. Et nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, capables de ne pas vivre avec nos instincts, ou en tout cas, capables de ne pas se laisser influencer par nos instincts, ou en tout cas de les stopper, vous voyez? Et c'est la grande différence. C'est pour ça que Quand il y a un faible devant un lion, il va pas se poser cette question, ok, maîtrise un petit peu ta faim. Hein, ce que vous feriez, vous voyez un beau gâteau au chocolat, c'est pas le moment. Ou quelque chose que vous aimez, hein, peut prendre autre chose. Mettez un dessert que vous ne devez pas manger. Si vous écoutez votre instinct, vous allez vous baffrer, vous allez sauter dessus, vous allez le dévorer. Mais comme vous êtes un être créé à l'image de Dieu, vous avez cette capacité, ce recul, et vous allez dire « Non, ce n'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour ce que j'ai. Moi, j'ai un problème de foie, il faut que j'évite les sucres, vous voyez ?» Et là, quand on me présente des brioches au chocolat devant moi, c'est très difficile. Il faut que je quitte la pièce, ou bien que je les prenne, ou que moi, je me retire, vous voyez, si je veux ne pas me laisser dominer. Vous voyez, c'est ça la différence. Et là, Caïn a une colère, il a une émotion qui est là, et qu'est-ce qu'il en fait ? Il va se laisser dominer par elle. Donc, deux aspects, la jalousie et le manque de maîtrise de soi. Donc, deux éléments qui font de nous des êtres créés à l'image de Dieu et qui devraient nous différencier de l'instinct des animaux. Et puis, le refus de la responsabilité personnelle. Et effectivement, au lieu de se repentir, de s'humilier devant Dieu parce qu'il avait refusé d'agréer son offrande, il aurait pu se repentir qu'un et dire « Mais ok, il y a un problème, tu refuses mon offrande, tu me refuses moi-même, où est le problème ?» Il aurait dû s'humilier devant Dieu. Il aurait pu s'humilier devant Dieu, mais il ne l'a pas fait. Et il s'est laissé guider par ses instincts, par ses émotions. Et ça, c'est terrible, les amis. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez toutes ces émissions de divertissement, quelle est la phrase qui revient systématiquement ? Ah, tu nous as fait vibrer, tu nous as procuré un grand moment d'émotion. Et en fait, il n'y a que ça qui fait vibrer les gens aujourd'hui. On est dans l'émotion et on veut vivre des émotions. Et la Bible nous dit, les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais ce n'est pas ça qui doit te guider. Ce n'est pas ça qui doit te guider. Et qu'est-ce qui doit nous guider ? Et on l'a vu avant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu notre guide. Lui, c'est un guide fiable. Alors, qu'est-ce que nous apprend ? Et ça, c'est la dixième question. Donc, jalousie et colère maîtrisée, c'est les deux éléments. Que nous apprend, dixième question, l'histoire de Caïn et Abel sur la manière de s'approcher de Dieu ? Alors, moi, j'en ai relevé plusieurs. Là, il ne faut pas être exhaustif. Hein. Quand vous allez aborder cette question, les gens vont s'exprimer, vous les laissez s'exprimer. Moi, je vous donne quelques pistes, d'accord ? La première, déjà, c'est que Dieu et Seigneur, et qu'il est libre d'agréer ou pas qui il veut. Ok ? Dieu est souverain. S'il n'a pas envie de ton offrande, s'il estime qu'elle n'est pas bonne, tu dois accepter ça. Parce que Dieu est Dieu. Qui tu es toi pour te rebiffer contre ton Seigneur ? C'est qui le maître ici ? Enfin, je ne sais pas, si vous avez des enfants, si tu leur dis non, c'est pas bien, il peut faire toutes les colères qu'il veut, c'est quand même moi le père, hein ? Je vais pas me plier à tes exigences. J'ai dit que c'était pas bien, t'as franchi la ligne, point barre. C'est Dieu qui décide. Dieu est totalement libre d'agréer ou pas l'offrande qu'il veut, d'accord ? Dieu est un être libre. C'est le seul être de l'univers totalement libre. Pas nous. Pas nous. Nous, on est totalement dépendants de Dieu. Si Dieu décide maintenant d'arrêter votre vie, un claquement de doigts suffit et tu arrêtes de respirer. Ton cœur s'arrête. Ça arrive, hein ? Là, on se dit, oh, ça arrive souvent qu'aux autres. Ah, ah. Là, je lisais le livre, et il y en a qui le lisent en ce moment, Crazy Love. Et dedans, il raconte l'histoire d'un pasteur, justement, pour montrer la soudaineté de la vie. Et ce pasteur était en train de prêcher en disant, je pourrais m'arrêter, ma vie pourrait s'arrêter maintenant. Il claque des doigts, boum, il tombe mort, crise cardiaque. Il est mort en prêchant, quelle belle mort. Mais c'est la réalité. Et je pourrais vous donner le nom, j'ai oublié le nom de ce pasteur-là, mais c'est la réalité. Dieu pourrait m'enlever ma vie maintenant, vous vous débrouilleriez avec la grande histoire. Je pense qu'avec la Bible et le Saint-Esprit, vous allez arriver à vous dépatouiller tout seul. Mais là, je suis là pour vous aider. Donc, première chose, Dieu est libre, il est Seigneur, et il faut pas enlever ça. Ensuite, Dieu peut lire les intentions du cœur, pas nous. Ok? Parce que là, vous avez vu qu'il a refusé d'agréer Caïn et son offrande. Donc, il y a les deux personnes, enfin les deux éléments, et Caïn d'un côté et l'offrande de l'autre. Donc, déjà, on va séparer les deux. Pourquoi il a refusé Caïn? Parce que son cœur n'était pas au bon endroit. En fait, on peut faire des choses, on peut donner des offrandes, mais si le cœur n'est pas là, nous on voit que l'argent qui tombe dans la caisse. Vous vous souvenez de cette histoire avec les pharisiens et la veuve qui, elle, a mis 20 centimes de francs, 20 centimes dans le tronc. Ok ? Les pharisiens, ils avaient mis quoi, eux ? Probablement des liasses de billets. Il n'y a pas de billets à l'époque, mais on va faire le comparatif. Eux, ils ont mis, mais beaucoup plus. Donc nous, on est trésoriers. Qu'est-ce qu'on regarde? Ils sont généreux, les pharisiens, n'est-ce pas? Puis la pauvre, cette dame-là, franchement, t'aurais mieux fait de rien donner. Hein. Et qu'est-ce que Jésus y voit? L'intention du cœur. Il dit, cette femme, elle a donné de son nécessaire. Alors que vous, vous avez donné quoi? Le superflu, la surface. Ça va pas vous faire brouter. Voyez? Donc, Dieu sait lire l'intention du cœur. Et ici, c'est ce qu'il fait. Il voit l'intention de Caïn. Il faudra pas être tenté d'aller dans le Nouveau Testament parce qu'on a que ça. Mais nous, on a au moins 4 textes qui parlent de Caïn et Abel dans le Nouveau Testament. Et c'est bien, dans le Nouveau Testament, c'est bien de les relire pour dire, ah oui, effectivement, Caïn était du mal. Et vous le voyez 2 fois sur les 4 textes qui sont cités. Mais on voit aussi l'intention du cœur, mais aussi comment on doit le faire. C'est la question ici. Hein. Qui détermine comment faire ou comment s'approcher de Dieu? C'est qui définit ça? On est d'accord, c'est Dieu. Alors imaginez 2 jeunes frères qui partent en colonie de vacances. D'accord? Pour que les enfants apprennent à se détacher sainement de leurs parents, on leur autorise d'appeler leurs parents au téléphone une seule fois par semaine et encore dans le bureau du directeur. Ça se passe comme ça dans la colonie de mon épouse. Et je crois que c'est même aucun coup de fil sauf urgence. Ok? Alors imaginez, il y a un enfant qui, lui, attend patiemment la fin de la semaine. Il va dans le bureau du directeur et les parents appellent à 17h précises. Ils ont chacun un ordre de passage et lui vient à 17h moins 2 et il attend son coup de fil. Et là, les parents appellent et il peut parler à sa maman et à son papa. D'accord? Et puis, on a dans la même famille un autre frère qui, lui, a un téléphone portable. Et lui, pendant la semaine, il va, parce qu'il est impatient, il va prendre le téléphone et il va appeler ses parents. Ok. Dans les 2 cas, ils ont communiqué avec leurs parents. On est d'accord? Ok. Sauf qu'il y en a un qui a obéi, qui a suivi les règles, et l'autre ne l'a pas fait. Ici, je suis en train de décrire le cas de Caïn et Abel. L'un honore Dieu en respectant le protocole enseigné par Dieu, alors que l'autre fait comme bon lui semble. Ils ont communiqué. Si on regarde que la finalité, on se dit, ah, il a fait le job. Sauf que non, il n'a pas suivi le protocole. Et en fait, ici, c'est ce qui est relevé. C'est que c'est une erreur de base, en fait. Parce que c'est Dieu qui détermine seul la manière dont l'homme doit s'approcher de lui. C'est lui qui définit les règles. Aujourd'hui, tout le monde bricole. Hein, on va prendre un peu de bouddhisme, on va prendre un peu de christianisme. Ah, puis chez les musulmans, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Et puis on fait un petit régime par-ci, un petit jeûne par-là. Et puis on se fait son petit cocktail. Et on se dit, waouh, là, comme ça, ça va m'aider pour m'approcher de Dieu. Ben là, c'est pas vraiment le cas. Parce que c'est Dieu qui définit les règles. On ne peut pas inventer notre propre religion, notre propre façon d'adorer Dieu. C'est lui qui détermine l'approche, les conditions de l'approche. Et à votre avis, est-ce que Dieu, il avait laissé un modèle à Caïn et Abel? Est-ce qu'on voit un modèle avant de la manière de s'approcher de Dieu? Là, il faut aller dans Hébreux 11, verset 4, et on apprend que Abel a agi par la foi. Ça veut dire que Caïn n'a pas agi par la foi. La foi et l'obéissance sont très proches. La foi et l'obéissance. Je fais confiance et j'applique la parole. Hein, c'est ça, la foi. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour cacher la nudité d'Adam et Ève? Vous vous souvenez? Il avait tué un animal. Il avait sacrifié un animal pour les couvrir d'une peau de bête. Et ça, c'était censé couvrir leur honte et leur nudité. Et là, il y a quand même quelque chose de fort. Parce que pourquoi il agrée le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Eh bien, il y a un nain, c'est un sacrifice animal. L'autre, ben, il a décidé de faire sa propre offrande quelque part. Il a décidé lui-même de définir les règles. Et là, on retombe dans le péché du départ de ses parents. L'autonomie, je choisis les règles. Je choisis de m'approcher de Dieu. Et là, Dieu, il dit, non, ça marche pas comme ça. Toi, j'en veux pas de tes offrandes. Ton cœur, il n'est pas au bon endroit. Au lieu de dépendre de moi, tu veux ton indépendance. Et le mets de côté. En fait, le texte ne dit pas explicitement. S'il y en a que le texte, là je suis allé dans Hébreux 11.4 pour voir l'intention et il a fait l'offrande par la foi. Abel, c'était un homme de foi, il en est mort. Mais il a fait une offrande par la foi. Mais on peut raisonnablement dire, même si ce n'est pas explicitement dit dans le texte, on peut raisonnablement dire que Adam et Ève avaient transmis les mêmes consignes à leurs enfants pour s'approcher de Dieu. Ça paraît assez logique. Si cette offrande animale est agréée par Dieu et qu'il le fait par la foi, c'est qu'il y a eu une transmission des parents. Ça semble assez logique ici. Mais Caïn ne les a pas suivis. Lui, il a fait sa tambouille spirituelle, son bricolage religieux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui la plupart du temps. Onzième question. Pouvons-nous nous identifier au personnage de cette histoire? Est-ce que vous êtes aussi des bricoleurs? Vous péchez, hein? Vous commettez un péché, puis récurrent, et là vous vous dites quoi? Ah, je me sens vraiment sale devant Dieu, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de définir des nouvelles règles. Et la plupart des réflexes humains, c'est je vais faire tout ce que je peux pour être propre. Et vous savez ce que dit Jésus ici? Il dit, laisse tomber, j'en veux pas de tes œuvres, elles sont pourries, ça sent le moisi. Ça pique ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la solution. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous pardonner de toute iniquité. Toute iniquité. C'est pas ce que tu ressens. Mais tu vois, là, tu montres ta dépendance de Dieu, alors que dans l'autre cas, tu montres ton indépendance. Tu veux essayer de plaire à Dieu, mais je peux pas m'approcher de lui comme ça quand même. Je suis sale. Oui, t'es sale. Et c'est comme ça que Dieu t'aime. Il veut pas que tu recommences, mais il te prend tel que tu es. Okay? Dieu nous prend comme ça. Parce que le sacrifice, c'est lui qui l'a fait. Ça, on reviendra plus tard. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez ici dans les personnages avec lesquels vous vous identifiez le mieux, Caïn ou Abel? Moi, j'ai déjà dit hein, avec lequel je m'identifiais. Et vous? Vous dormez ce matin? Pas de réaction? Vous bricolez? Un peu? Ça vous arrive? C'est humain ça. Hein, le bricolage, c'est naturel. On est des fabricants d'idoles, des usines à idoles, dit Jean Calvin. Des fabriques d'idoles. Nous, hein, on les fabrique tout le temps, des nouvelles. On en jette une, puis on en refabrique une autre derrière. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Abel, vous avez imité Abel? Ça serait quand même mieux, hein? J'espère que vous vous reconnaissez dans le cœur d'Abel. Désir de vous approcher de Dieu correctement, dans la foi. Et c'est ça qui caractérise une vraie relation. Ok, je suis pas parfait, mais je viens à toi parce que tu m'as demandé de le faire. Vous voyez? Alors, 12e question. Dans ces deux passages, qu'est-ce que l'on apprend sur Dieu et sur ce qui nous appelle à vivre avec lui? Allez, je vous les énumère rapidement, mais là, c'est pareil, il n'y a pas de liste exhaustive. Faut essayer de voir qu'est-ce qu'on apprend ici sur Dieu. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez sur Dieu? Déjà, on rigole pas avec Dieu, hein? On est d'accord? Ça veut dire qu'il est saint. Il est saint. Il est à part. Est-ce que quand il a fait une promesse, il l'a tenue? Donc il est juste. Est-ce que malgré le péché, il continue de pourvoir aux besoins de Caïn et de Abel et des humains? On est d'accord? Vous pouvez respirer, vous pouvez manger. Hein? Ça veut dire qu'il est bon. Est-ce que quand ils ont péché, Dieu est intervenu? Ben oui, il a couvert la faute, donc il est rempli de grâce, vous voyez? Ça, c'est un élément supplémentaire. Qui c'est qui détermine les conditions de l'approche? C'est Dieu, on est d'accord? Donc il est souverain. Et ensuite, qui c'est qui est venu chercher l'homme pour rentrer en dialogue avec lui? C'est Dieu, donc il est présent. Et qu'est-ce qu'il a annoncé au serpent? Il va lui écraser la tête. Au final, il sera victorieux. Donc, vous voyez, on apprend que Dieu est saint, juste, bon, gracieux, souverain, présent et victorieux. Ça fait quand même pas mal de choses, juste dans ces trois chapitres, 1, 2, 3 et le quatrième ici. Et qu'est-ce qui nous appelle à vivre avec lui? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui? Allez, je vous le dis vite fait, à vivre dans la foi, parce que c'est exactement ce qu'a fait Abel, c'est ce qu'ont dû faire Adam et Ève, vivre par la foi, faire confiance à Dieu et à sa parole. Ensuite, vivre dans l'obéissance, ça paraît assez évident, mais ça c'est totalement lié à la foi. On obéit parce qu'on fait confiance, vous voyez, on a cette relation, vivre en personne responsable, chose qu'il n'a pas assumée. Et c'est ce qu'a fait Adam en repoussant la faute sur Ève. Non, sur Dieu, pardon. Il repousse la faute sur Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, voyez? Et Ève, elle fait quoi? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Voyez, chacun en trouve un bouc émissaire, donc on n'est pas responsable. Donc il nous appelle à vivre en personne responsable. L'humilité, c'est de reconnaître. Arrête de faire ta tambouille spirituelle. Prends ce que Dieu dit et avance comme ça. Donc c'est vivre dans l'humilité. Dans la vigilance, le péché, il restera toujours à notre porte, les amis. On a ce choix, à un moment donné, de lui dire stop. Vive la repentance, ce que Caïn n'a pas fait, il aurait pu, il l'a pas fait. Vivre dans la dépendance. Si on reconnaît pas qu'on est 100% dépendant de Dieu, les amis, à un moment donné, ça va poser problème. C'est que si tu crois que tu es autonome et indépendant, tu vis dans la totale illusion. Suffit que tu ailles faire un petit séjour à l'hôpital et tu vas voir de qui tu dépends. N'est-ce pas, Samia? Elle, probablement, la personne qui a le plus conscience que sa vie est entre les mains de Dieu. Quand on a une santé fragile, les amis, on ne dépend que de Dieu. Oui, des médicaments, oui, des médecins, mais au travers d'eux, de Dieu. Et vivre dans l'espérance, parce que oui... Satan va nous mordre, enfin va mordre celui qui va lui écraser la tête, mais au final, il y a une touche d'espérance ici, d'accord? Voilà les éléments que j'ai relevés, c'est pas exhaustif, hein, et il faudrait pas que vous disiez « Attends, t'as pas dit, t'as oublié un point », d'accord? Ça vous donne des pistes si jamais vous séchez. Mais c'est pas le but de faire un truc exhaustif. Ici, moi, je suis dans un exercice de prédication, donc c'est un petit peu différent. D'accord? On va passer maintenant à la session numéro 3, le sacrifice. Donc on a vu création, Ensuite, on a vu autonomie ou indépendance, et maintenant, sacrifice. Sacrifice, session 3, et on va lire maintenant. Donc, ça c'était le résumé, mais on l'a déjà lu tout à l'heure. Voilà, l'objectif, c'est de découvrir les premières promesses de Dieu pour rétablir les relations brisées. D'accord ? Ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Et ce sera de la séance. Donc là, on va lire 3 passages, et là, je compte sur la technique. Donc, Genèse 12, versets 1 à 5. Ensuite, Genèse 17, versets 1 à 9. Et Genèse 22, versets 1 à 18. C'est assez long. Mais par contre, vous allez voir que le lecteur et le conteur va vous aider à vous accrocher au texte.
L'Éternel dit à Abraham,
quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent.
On va passer à Genèse 17, versets 1 à 9. Vous pouvez suivre dans les livrets, si vous les avez avec vous.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit
« Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. »
Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit
« Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. »
Dieu dit à Abraham,
« Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, fil des générations. »
Voilà. Et là, on va arriver à Genèse 22.
Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit
« Abraham ».
Celui-ci répondit
« Me voici. »
« Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs,
« Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant,
« Mon père,
me voici, mon fils.
Voici le feu et le bois, Mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?
Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste.
Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit
« Abraham ! Abraham ! »
« Me voici. »
« Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. »
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit,
« Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi.
Et voilà.
Abraham.
Merci pour la technique. Ils doivent jongler entre les différents chapitres. Donc merci à mon fils qui est derrière les manettes aujourd'hui. Alors, on va attaquer les questions. Il y a 8 questions ce matin. Et la première, c'est qu'est-ce que Dieu propose à Abraham ? Qu'est-ce que Dieu lui promet ? Alors, j'attends vos réponses. Première chose, toute première chose qu'on a lue au chapitre 12. Voilà, il n'y a pas de promesse encore. C'est lui dit que tu quittes sans savoir où tu dois aller. Et donc là, ça, c'est déjà un pas de foi. Tu dois quitter ton pays, ta famille et tout ce que tu connais pour aller vers un pays inconnu que Dieu lui montrera. C'est comme si là, on vous disait, ok, tu quittes ton travail, tu quittes ta famille et tu changes, tu vas aller vivre à Lausanne, de l'autre côté du lac. Ok, super, et pourquoi faire ? Tu verras plus tard. Si on nous faisait ce genre d'annonce, je ne sais pas comment on réagirait en fait. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe ici. Hein. Dieu entre dans la vie d'Abraham et lui demande de partir de son pays. Et qu'est-ce qu'il lui promet du coup ? 4 choses. Allez, aidez-moi. Quelle est la première chose ? Canaan, c'est quoi ? C'est une promesse, c'est la terre promise. Ok, donc il lui propose une terre. Mais quoi d'autre ? L'abondance, ouais, ok, alors ça sera sur la terre. Mais quoi d'autre ? Oui, j'ai entendu. Une descendance. Petite descendance, tu auras 2 ou 3 enfants ? Hein, on est d'accord. Je ferai de toi une grande nation, une foule de nations. Et est-ce qu'il a une bénédiction personnelle, Abraham ? Son nom sera grand. D'accord ? Donc on lui promet que son nom sera grand. Alors de quelle dimension il s'agit, on ne sait pas, mais quand c'est Dieu qui dit « ton nom sera grand », pas mal, hein ? Jean-Baptiste, ton nom sera grand. Ta vie sera courte, mais ton nom sera grand. Vous voyez, ça c'est Dieu qui le définit, c'est pas nous. Et une bénédiction universelle. Combien de familles de la terre seront bénies ? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham va devenir, donc ça c'est 17:4, le père d'une multitude de nations, plus nombreuses que les étoiles dans le ciel. Et là on se dit, wow, est-ce que c'est vraiment terrestre ? Vous voyez, ça va au-delà finalement du terrestre ici. Des rois sortiront de toi. Des rois, Hein, 17:6, Dieu établira une alliance éternelle avec sa descendance. Donc une alliance éternelle, les amis, c'est beaucoup plus loin que simplement cette vie sur terre. Donc vous voyez là, il y a une promesse qui va au-delà de cette vie ici-bas. C'est juste ce qu'on peut dire là. En tout cas, on a l'impression que Abraham va jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité parce que ses promesses sont juste grandioses. Elles dépassent largement le cadre de la vie d'un simple bédouin parce que c'était son cas. Il avait des troupeaux de chèvres et de moutons. Il était éleveur. Hein, c'était un bédouin. Et donc, quand on dit « voilà mon petit bédouin, ce que tu vas devenir », waouh ! C'est juste impressionnant. Et quand c'est Dieu qui le dit, alors là, oh ! Pourquoi est-il problématique ? Et là, il faut réfléchir à pourquoi Abraham part avec son neveu. Et ensuite, en quoi l'attitude d'Abraham est-elle d'autant plus étonnante ? Donc Dieu lui demande de partir, de tout quitter, ok ? Mais le texte précise qu'il va prendre Lot. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que vous trouvez que c'est un problème ou pas ? Qu'est-ce qu'il y avait d'étrange, en fait ? Abraham, il avait quel âge quand il lui demande ça ? 75 ans, 12, verset 4. Et son épouse, elle était comment ? Plus apte, stérile. Peut-être ménopausée, on ne sait pas, en tout cas, plus capable d'avoir des enfants. Et comment peut-il devenir père d'une grande nation alors que sa femme ne peut pas avoir d'enfants ? C'est impossible, humainement c'est pas possible. Ok, et donc Abraham il va emmener son neveu avec lui, probablement parce qu'il se dit « Ah, mais peut-être que ça va être mon neveu qui sera à la descendance ». Vous voyez, il a projeté quelque part ses plans B. Je fais confiance à Dieu, je vais y aller, mais je vais quand même prendre avec moi. Mais on est au tout début de l'histoire d'Abraham ici. Quand vous êtes converti, je pense que vous avez aussi fait ce genre de compromis. C'est que oui, je veux Dieu, mais en même temps, je vais quand même garder une petite assurance au cas où. Vous voyez ? Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. Mais bon, Abraham ici, il n'est pas parfait, on le voit. C'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant, en fait ? Le plus étonnant, c'est qu'ils partent quand même. Franchement, tu vas avoir une descendance, je te demande de partir dans un pays, je te dis pas tout, hein, parce que là, on est au tout départ, hein, c'est au chapitre 12, on n'a pas encore la suite, il va se passer du temps. Mais il le fait, il part, il laisse tout, et il y va, voyez ? Donc il y a quand même vraiment un homme de foi ici, imparfait, hein, parce qu'il y a le petit plan B, mais on va voir que Abraham va grandir dans sa relation avec Dieu, et ensuite, vous allez voir que les épreuves vont se durcir un petit peu. En tout cas, moi je trouve que c'est une remarquable preuve de confiance. Hein, si Dieu nous demande une chose, on lui obéit, et c'est ce qu'il fait. Il partit en obéissant, point barre. Pas de discussion, il y va. Alors, il a pris son neveu avec lui, mais il y est allé. Il aurait pu renoncer, hein. Souvenez-vous de Moïse au début. Troisième question. En Genèse 22, pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de sacrifier cet enfant qui est le fils de la promesse ? C'est quand même assez étrange, vous trouvez pas ? Est-ce que vous avez déjà vu l'autorisation dans la Bible de tuer des enfants ? La Bible, elle dit exactement l'inverse. On doit protéger les plus faibles. Hein, je n'ai pas compté le nombre de mentions de prendre soin des veuves et des orphelins, mais les plus fragiles en fait. Dieu nous demande de prendre soin des gens ou des personnes les plus fragiles. Les enfants en font partie, ils sont dépendants totalement de leurs parents. Et là, on a un commandement de tuer un enfant. Donc ça, c'est pas normal, c'est pas entre guillemets moral, ok ? Donc là, la Bible est très claire, hein. Jamais il y a de sacrifice d'enfants. Au contraire, les Israélites se démarquaient des pratiques où on exposait les enfants. Quand on avait une fille, par exemple, on l'exposait à la nature. Les Grecs faisaient ça aussi, hein. Mais ils exposaient leurs enfants, ou alors carrément ils le donnaient en sacrifice à Moloch. Et c'est ce qui se pratiquait. à l'époque. Et le Dieu de la Bible, il disait, on fait pas ça, on protège la vie. La vie d'un enfant est précieuse. Donc ça a toujours été le message de la Bible. On s'est détaché complètement des pratiques païennes. Et donc là, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe, hein? Ça vous a choqué la première fois que vous l'avez lu. Forcément, quand on tombe sur ce texte, on se dit, mais attends, il demande de sacrifier un enfant. Pire, c'est pas n'importe quel enfant. C'est quoi cet enfant? Son fils unique, il en a qu'un, et c'est l'enfant de la promesse. Il dit, attends. Tu me dis qu'au travers de ma descendance, je vais avoir une grande nation, que je vais bénir toute la planète. Et là, tu me demandes de le sacrifier? Il y a un problème, là. Il y a un problème. Mais c'est pas parce que Dieu veut un sacrifice humain. Parce que ça serait contraire à son caractère déjà révélé dans la création. Parce que Dieu, il est la source de la vie. Il est la source de la vie. En fait, là, c'est une mise à l'épreuve, une sorte d'examen, un test de confiance. Dieu veut savoir si Abraham aime davantage le don, Isaac, que le donateur, Dieu. Ok ? Parce qu'en fait, à qui il appartient Isaac ? On est d'accord ? Vos enfants. Là, vous avez... La plupart d'entre vous, vous avez des enfants. Ils ne vous appartiennent pas. Dieu nous les prête. Dieu nous les prête pendant un temps. Et il peut nous les retirer. Ah, je ne vous le souhaite pas, hein, parce que c'est horrible. Mais c'est ce qui se passe ici. Mais c'est moi qui ai, c'est mon fils. C'est moi qui ai choisi d'en faire la bénédiction pour toutes les nations. Donc finalement, Dieu, il a le droit de vie ou de mort, il fait ce qu'il veut. Alors certes, on va pas arriver jusqu'au bout, mais c'était un test en fait ici. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ça c'est une petite leçon personnelle. Nos biens, notre maison, notre travail, notre santé. Et parfois, Dieu retire l'un de ces éléments dans nos vies. Et il veut faire exactement comme ce qu'il fait avec Abraham. Il veut savoir si on aime davantage le donateur que le don. Ça, c'est un test. Mais il n'a pas lieu n'importe quand. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Quatrième question. Abraham semble certain de revenir avec son fils. Qu'est-ce qu'il espérait en fait ? Il va revenir, exactement. Nous reviendrons vers vous. Verset 5 du chapitre 22. Donc il savait, il disait, non, mais on va revenir avec. On revient vers vous, vous inquiétez pas, on va là-bas, mais on revient. Vous avez vu la foi d'ici d'Abraham, c'est incroyable. Mais ça montre qu'il croit profondément que Dieu va faire ce qu'il a promis, même si ça lui semble impossible. Là, on croit au Dieu de l'impossible. Et oui, il peut changer les circonstances. Il comprend pas comment, mais il sait que Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez ? On est convaincu que Dieu est bon, qu'il est juste et qu'il est saint, donc que Dieu ne ment pas. Donc s'il nous demande de faire quelque chose, et là honnêtement, si un matin vous vous levez avec cette idée-là, moi je vous demande plus que des confirmations. Hein. Dieu va pas vous demander un matin de sacrifier votre fils, hein, vous inquiétez pas. S'il demande ce genre de choses, il entend la voix de Dieu. Vous voyez, il y a énormément de choses qui se sont passées ici. En fait, Abraham ici espérait que Dieu trouverait une solution d'une manière ou d'une autre. Il savait pas, mais il savait que Dieu avait un plan. On peut dire que c'est une confiance aveugle, mais elle n'est pas instantanée, cette confiance. Avant d'en arriver là, Abraham avait vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il avait vécu plusieurs années à ses côtés. Sa foi avait été éprouvée à plusieurs reprises. Et je me suis amusé à faire un retraçage de sa vie. En fait, la première promesse, elle a lieu alors qu'il avait 75 ans, en Genèse 12. Donc 75 ans. Quand Isaac naît, il a 100 ans. Donc il a déjà passé 25 ans avec Dieu. Ok ? Ensuite, le sacrifice d'Isaac, il a lieu quand Isaac avait entre 15 et 20 ans. Il était capable de porter du bois. Donc ça veut dire, on sait pas trop, hein, mais c'est au moins entre 15 et 20 ans. Et donc, on arrive ici, quand il a cette épreuve, si on cumule 25 plus 10 ou 15, Donc vous voyez, on arrive vers les 40 ans en fait. 40 ans de vécu avec Dieu. C'est à ce moment-là que l'épreuve difficile, douloureuse arrive. Elle n'arrive pas avant. Ça vous rassure? Ça vous rassure, j'espère. C'est là que je suis en train de me demander si vous vous projetez dans la situation. Oh, si Dieu me demandait de sacrifier mon fils. Lequel? Je regarde Anne-Laure, elle en a 3. En fait, entre 40 et 45 ans, ça montre que la foi d'Abraham s'est construite lentement. Dieu lui demande pas tout d'un coup. Il va former son cœur au fil du temps. D'accord? Donc c'est vraiment difficile, mais c'est pas la première chose que Dieu lui demande. D'accord? Ensuite, question 5. Qui est sacrifié à la place d'Isaac? Je pense que vous allez devoir répondre facilement ici. Vous avez entendu le « mais ». Je fais bien, hein? Mais c'était un bélier qui est sacrifié à la place d'Isaac. En fait, un bélier est pris dans un buisson, comme par hasard. C'est quand même bizarre d'avoir un bélier qui se balade tout seul. En général, les béliers, c'est jamais tout seul, hein? C'est toujours en troupeau. C'est comme ça que fonctionnent ces animaux-là, les ovins. Ils sont ici confrontés à un miracle. Dieu, il envoie cet animal, tout simplement. C'est un vrai miracle ici. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi? Alors, pour éprouver sa foi, c'est clair. Mais parce que Dieu n'a jamais voulu la mort d'Isaac. C'était pas son souhait. Le test portait sur le cœur et la foi d'Abraham, pas sur un sacrifice humain réel. Et une fois qu'Abraham a démontré sa confiance totale, hein, il a quand même attendu qu'il ait le couteau dans la main. Je sais pas si vous imaginez la scène quand même. Hein, il prépare l'holocauste, il attache son fils, il le pose sur l'autel, et là il prend le couteau et c'est juste là qu'il l'arrête. C'est waouh! Il faut avoir du cran là. Hein. Parce que arriver déjà à faire tout ça, moi ce qui m'étonne le plus c'est que Isaac il soit pas tiré quoi. Il était docile. Ok, je te fais confiance papa. Est-ce que mon fils ferait la même chose? On lui posera la question après le culte, s'il vous plaît. En tout cas, une fois qu'Abraham a démontré sa confiance totale, eh bien Dieu intervient. Ok, il a eu ce qu'il voulait. Stop! C'est pas la peine d'aller plus loin. N'avance pas ta main sur l'enfant. C'est-à-dire non, ne fais pas tomber ta lame. C'est pas utile. Cela montre que Dieu pourvoit lui-même au sacrifice nécessaire. Ça, c'est hyper important. C'est Dieu qui pourvoit au sacrifice. C'est pas Abraham qui doit donner son fils, c'est Dieu qui offre ce qu'il faut pour que la promesse continue. Et comment il va appeler ce lieu, Abraham? Yahweh, Jireh, ça veut dire Dieu pourvoit. Le bélier va jouer le rôle de substitut. D'accord? Il va mourir à la place d'Isaac. Isaac méritait la mort selon l'ordre de Dieu, mais un animal innocent prend sa place. Isaac repart vivant grâce au sacrifice d'un autre. D'accord? Donc ça, c'est un principe hyper important, mais est-ce qu'on l'a déjà vu avant? Qui c'est qui a déjà vécu ça avant Abraham, Cain et Abel, et Adam et Ève, ils méritaient la mort. Ils auraient mérité de mourir tout de suite. Ils avaient péché. Tu mourras certainement. Là, on a la grâce, hein, la miséricorde de Dieu. La grâce, elle vient quand il vient les couvrir. Mais il y a déjà la miséricorde. Il ne les frappe pas parce qu'ils méritent. Donc là, il y a déjà cet arrêt, et ensuite Dieu vient couvrir de la... Là, c'est la grâce. Il vient les couvrir, pardonner leur péché, leur nudité, leur honte. Donc vous voyez que juste avec 3 histoires, on peut vraiment voir quelque chose ici se dessiner. Alors, 6e question. Voyez-vous un lien avec la session précédente? Et là, il faut reprendre Genèse 3, 21. Quelle notion apparaît? Ben, c'est ce qu'on vient de dire, hein. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et là, c'est la substitution, comme on l'a dit. Et c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Un innocent meurt à la place du coupable. C'est Dieu lui-même qui pourvoit à la solution. Et le sang d'un animal est versé pour que l'homme vive. Donc la mort, elle est bien réelle, mais elle frappe un substitut. D'accord? Et ça, c'est Dieu qui établit ce principe dans la Bible. Quelqu'un d'innocent peut mourir à la place de celui qui mérite la mort. C'est pas une invention humaine. C'est le plan de Dieu depuis le début. Et ça, mes amis, ça a été copié par beaucoup de religions. Chez les hindous, chez les musulmans, et bien d'autres, même chez les animistes. On a un animiste, ou de famille d'animistes, excuse-moi. Notre stagiaire, Damien, il vient du milieu animiste, demandez-lui si son père, qui était lui un prêtre animiste, ouais, comment on dit déjà, un chaman, il fait aussi des sacrifices. Donc vous voyez, ce principe-là, il est vraiment enraciné, et ça vient d'ici, en fait, de la Bible, et ça vient d'Adam et Ève, dès le départ, en fait. Sauf que, après, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de suivre ce que Dieu a écrit, ils font leur tambouille, ils font comme Cain, tout simplement, ils bricolent. Et puis, ben, on dérive, hein. Cain a déjà dérivé dès le départ. Il reçoit le commandement des parents, il n'obéit pas exactement, il fait sa petite tambouille, et puis là, on est des siècles plus tard, et on a des chamans qui font leur tambouille. Vous voyez? Septième question, comment réagissez-vous à cette histoire? Est-ce que ça vous choque? Hein, on est d'accord? Ça doit nous choquer, en fait. C'est horrible. C'est horrible. Mais en même temps, c'est nécessaire. Et c'est pas nous qui choisissons, hein. Encore une fois, on n'a pas choisi ici. C'est Dieu qui choisit de trouver cette solution. Et il la donne dès le départ. Il faut, pour que ton péché soit pardonné, pour que ta nudité, ta honte soit couverte, qu'il y ait un animal qui meure à ta place, ou qu'il y ait un substitut plus exactement. Quelqu'un qui prenne ta place. Parce que tu mérites la mort. Vous voyez, ce principe de mériter la mort, il faut qu'on le comprenne. Parce que c'est l'essence du péché, en fait. Le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit l'apôtre Paul, Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, et je dis pas la suite. Parce que ça va venir, les amis, ça va venir. En tout cas, cette histoire, elle nous apprend que il y a une tension entre l'amour du père ou d'un père pour son fils et sa confiance absolue en Dieu. Il y a vraiment une tension ici. Et moi, ça me fait réfléchir. Est-ce que je serais capable de faire confiance à Dieu jusque-là? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais ce qu'on apprend aussi dans cette histoire, c'est que Dieu ne cherche pas notre douleur, mais notre cœur. Il veut voir si nous lui faisons confiance, même quand tout semble incompréhensible. Et je dirais quand tout semble incompréhensible. Et c'est la huitième question. Quel genre de relation Dieu désire-t-il que nous ayons avec lui? Je pense que la leçon est assez évidente ici. Fais-moi confiance. C'est la base. C'est ça la foi. Faire confiance à ce que Dieu dit ou à ce qu'il a écrit pour nous. Comme un enfant envers son père. Imaginez un papa qui traverse la route avec son fils et qui le tient par la main. Et puis, vous savez, parfois, il y a des voitures qui arrivent plus vite ou une moto qui traverse et hop, là, on arrête le convoi. On est en train de traverser la rue, puis on voit que l'autre nous a pas vu, on s'arrête. Mais l'enfant, il comprend pas pourquoi on s'arrête. Vous voyez? Et tout d'un coup, ça nous arrête net, là. Mais si un enfant lâche la main, qu'est-ce qui se passe? Ben, il meurt. C'est la catastrophe. Et donc, Dieu nous dit, ok, apprends à me faire confiance. Tu ne vois pas tous les dangers. Fais-moi confiance. Je te tiens par la main. Et des fois, ça va s'arrêter net. Tu ne vas pas comprendre. Des fois, on va être arrêté dans notre course. Mais c'est pour qu'on dise, ah oui, j'ai un papa qui me tient la main fermement. Donc, hop, ça nous renvoie à celui qui nous tient la main, celui qui nous arrête dans les circonstances, c'est Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'important à saisir, ça. Donc, la première chose, c'est qu'il veut qu'on lui fasse confiance, comme un enfant qui se laisse guider par son père. Parfois, ça va s'arrêter net. Parfois, on va devoir patienter dans certaines situations, mais Dieu le sait. Dieu est au contrôle. Deuxième leçon, Dieu veut qu'on lui fasse confiance, pas seulement quand c'est confortable, mais surtout quand ça ne l'est pas. En fait, il veut être notre Dieu, pas juste un distributeur de bénédictions. Là, il a compris douloureusement la leçon. Est-ce que tu es prêt à me donner ton fils ? Mais je te signale que c'est moi qui suis au départ, tu ne devais pas l'avoir ton fils. Tu étais incapable d'avoir ce fils. Ta femme était stérile, toi, tu étais un peu âgé, hein, quand même, 100 ans. Mais il a appris à lui faire confiance. Et c'était pas très confortable. En tout cas, quand on lui fait confiance, Dieu révèle sa fidélité. Et c'est pour ça qu'Abraham, à la fin de l'épreuve, il peut dire « L'Éternel pourvoira ». L'Éternel pourvoira. Ça, c'est un gage de confiance. Et enfin, Dieu veut établir une relation basée sur sa parole. Abraham doit croire ce que Dieu dit, même quand c'est impossible. Ça, c'est hyper important. C'est pas une relation transactionnelle du style « je t'obéis si tu me bénis ». Ok ? Parce que si vous en êtes là, les amis, c'est que vous n'avez pas compris, en fait. Pas comme ça que ça marche. Hein ? Vous avez eu des gens, « Ah oh, si Dieu il fait ça, moi je vais m'engager là. Hein. » Ça marche pas comme ça. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dieu demande à Abraham de quitter sa sécurité avant de voir la terre promise. Ok ? Donc, Abraham, il l'a pas devant ses yeux encore. Il lui dit, il va y avoir quelque chose, mais tu verras. Et c'est ça la foi. C'est qu'on ne sait pas encore ce qui se passe. Mais c'est génial, en fait. C'est ça l'aventure avec Dieu. On ne sait pas, mais on lui fait confiance. Je t'obéis, même si ça me coûte. Et vous savez, avec Pascal, on a récemment dû intervenir. Ça nous coûtait. Mais on a obéi. Seigneur, tu nous demandes de protéger le troupeau, d'avertir le troupeau. Et c'est ce qu'on fait. C'est difficile, mais je fais confiance à ce que Dieu dit. Et je sais qu'il va bénir derrière. Mais sur le moment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est contre nature. Ça va contre nos instincts. Mais pourtant, on le fait. On fait exactement ce qu'Abraham a fait. C'est difficile. On comprend pas, mais on va le faire. Parce que ça va honorer Dieu. Mais vous voyez, quand il y a une épreuve de foi comme celle-là, Dieu il ne l'envoie pas quand elle est difficile, l'épreuve, au tout début de notre foi. Oui, il y a un pas de foi à faire, mais il a laissé prendre Lot. Il a pu avoir son plan B, même s'il n'allait pas être en action, le plan. Dieu l'a laissé. Il sait, Dieu sait qu'on est imparfait et que parfois on a besoin de béquilles, mais au fur et à mesure, les béquilles, il les enlève. D'accord ? Et il faudrait pas croire que Dieu va agir comme il a agi au tout début de votre foi, où il vous montrait des choses évidentes de sa présence. Hein. Moi, quand je me suis converti, Dieu il faisait des miracles presque visibles devant moi. Je pouvais me dire que c'était évident que Dieu était là. Et puis plus on avance dans la foi, plus il retire ces choses.